Chapitre 18. Au village, personne ne se doutait du drame qui bouleversait la vie de Clémence. Depuis son départ, ses sœurs attendaient avec impatience une lettre leur annonçant la réconciliation entre les amoureux. « J'espère que tout va comme elle veut », avait chuchoté Simone à son mari. « Même si on doute de cette relation, elle est tellement malheureuse sans son Sylvestre que je pense qu'il vaut mieux qu'il se donne une chance. » Tom avait haussé les épaules sans répliquer. Les problèmes de sa jeune belle-sœur ne le concernaient pas. Quant à Jacqueline, les amours de Clémence étaient bien loin de ses pensées quand il pénétra en vitesse dans l'église après sa visite sur le rang Lapinière en ce matin frais d'automne. Contrairement à son habitude, il avait évalué rapidement les connaissances religieuses des jeunes élèves qui fréquentaient la petite école grise. La maîtresse s'était attendue à un plus long questionnement et n'en avait pas dormi de la nuit. D'habitude, le curé s'installait à l'arrière de la classe durant une bonne partie de la matinée, avant de lui faire des dizaines de recommandations. « Vous faites bien vos prières tous les soirs, les enfants ?» avait demandé distraitement Jacqueline. « Récitez-moi le Notre Père », avait-il ensuite insisté. Puis, après quelques questions adressées à l'institutrice, l'homme s'était éclipsé. Et les écoliers avaient laissé tomber leur maintien rigide pour ricaner derrière leurs mains. La visite du curé à l'école signifiait toujours un niveau de stress bien élevé. Leur mère les avait revêtus de leur tenue du dimanche pour la plupart, et ils avaient été bien avertis de ne pas faire honte à leur famille. Pourtant, si les enfants savaient à quel point l'esprit de leur visiteur était ailleurs, nul doute que leur inquiétude aurait baissé d'un cran. En mettant les pieds dans l'allée centrale de l'église, derrière les larges portes blanches, Jacqueline fit une grimace de dépit en constatant que son bedeau et sa femme s'avançaient vers lui, des guenilles à la main. « Bien le bonjour, monsieur le curé. On a décidé de vous faire une belle surprise. Vous allez voir que ces bancs-là vont reluire comme des sous neufs avant la fin de la journée. On n'a rien de prévu d'autre aujourd'hui. » La femme blonde aux cheveux frisés comme un mouton s'approcha de sa démarche nerveuse en souriant. Elle n'avait plus de dents sur la gencive du bas, ce qui résultait en une lèvre inférieure qui basculait dans sa bouche. Jacqueline retint un geste de dépit en réfléchissant à toute vitesse. Comment se défaire de ces deux importuns avant l'arrivée de Rosalie Taillefer? Il ne voulait pas que la pauvre fille se sente observée lors de leur discussion sur son avenir. Du moins, c'est l'excuse que Jacqueline avait en tête lorsqu'il s'approcha d'eux en disant « Vous êtes de fort bonnes personnes, mais bien y penser, je me demandais si vous ne me rendriez pas un service à la place de ce ménage. » « Oh, bien sûr !» répondit Madame Ouimet en lançant un regard surpris vers le bedeau. Jacqueline tentait de trouver une solution pour se sortir de cette malencontreuse situation lorsque la femme l'aida sans le vouloir. « Nous autres, on est à votre service, vous le savez bien. Pour aller au magasin, pour faire du ménage, même pour vous ramasser des légumes dans le jardin quand c'est la saison. » Le curé sourit intérieurement. Il avança vers la femme et posa une main sur son épaule. Aussitôt, celle-ci cessa de bouger et leva un regard admiratif vers le grand blond ventru. « Justement, ma chère dame, j'avais prévu aller ramasser les dernières betteraves dans le fond du champ, comme je l'avais dit à Gédéon, mais ça m'est complètement sorti de l'idée. Pourtant, j'aime ça mettre les mains dans la terre une fois de temps en temps. Mais vous savez comment je suis occupée. » avec tous les sermons à préparer et les visites paroissiales. » Alors que la femme hochait la tête pour approuver, son mari recommença à frotter un banc en répondant avec bonne humeur « Pas de trouble, monsieur le curé, on finit de laver ici et ensuite on ira vider votre potager de ses derniers légumes. Il ne doit plus rester grand-chose à part quelques patates et betteraves. Bientôt la terre va geler. » Jacqueline se retourna vers l'hôtel pour éviter que le couple ne remarque sa grimace de dépit. Il ne voulait pas qu'il soit dans l'église en même temps que Rosalie, eut-il envie de marteler. Mais prenant sur lui, l'homme posa un regard sur son jonc doré et ajouta d'un ton charmeur, en revenant vers le bedeau, « C'est juste que je n'aurais pas haï ça manger une bonne crème de carottes ce midi, Madame Ouimet. Puis, malheureusement, j'ai fini les dernières hier soir. Il faudrait donc aller cueillir celles qu'il reste, si ça ne vous dérange pas. Me semble qu'il en restait un rang, non? Oui, mais elles vont pas être bien grosses, répondit Gédéon en cachant sa déception. Le vieux n'avait pas trop envie de se mettre à genoux au froid pour récolter des légumes minuscules. Il avait prévu attendre une journée un peu plus ensoleillée pour vider le jardin, mais devant le visage souriant de son curé, il fit contre mauvaise fortune bon cœur. Bon, Thérèse, on va aller faire ça d'abord. Tu pourrais peut-être y aller tout seul, proposa sa femme alors que Jacqueline fermait les yeux de dépit. Heureusement, le bedeau secoua la tête et fixa tristement son épouse. Ben non, Thérèse. Tu sais bien que je peux plus me relever quand je me penche trop longtemps. Si je ramasse tous les légumes à genoux, c'est toi qui vas devoir me ramener dans tes bras à la fin de la journée. Alors le couple Ouimet quitta enfin l'église et Jacqueline laissa échapper un profond soupir de soulagement. Il se mit ensuite à prier, afin qu'aucun autre villageois n'ait l'idée de venir le rencontrer avant l'heure de midi. « C'est juste pour Rosalie que j'ouvre les portes », murmura le curé en évitant de regarder la statue du Christ derrière l'autel. Fermant les yeux avec anticipation, l'homme s'installa à genoux dans le premier banc et se mit à implorer le Seigneur avec ferveur pour qu'il l'aide à bien guider la jeune taillefère. C'est certain qu'il ne faut pas qu'elle fréquente le fils d'un alcoolique. Rosalie mérite bien mieux que ça, observa Jacqueline, en taisant la petite voix qui lui soufflait que c'était lui le mieux placé pour accompagner cette jeune femme. Au moment où il se relevait pour faire son signe de croix, la porte de l'église s'ouvrit, et quand Jacqueline se retourna, il sentit le désir l'envahir en voyant Rosalie s'avancer dans l'allée, le visage rosi par la marche qu'elle avait faite depuis le chemin principal. « Bon matin, monsieur le curé. »« J'ai besoin de te parler de grand-mère, » répéta Madeleine, déterminée à ne pas sortir de la maison de sa sœur avant que celle-ci ne l'entende. Simone la fixa longuement sans répondre, puis elle marmonna sèchement « Dis-moi pourquoi tu es ici et va-t'en ensuite. » « Je t'en prie. » Simone mit ses mains au fond des poches de sa robe et serra ses poings. Elle avait autant envie de jeter sa jumelle hors de chez elle que de la dévorer des yeux. Depuis plus de 16 mois, les sœurs n'avaient eu aucune conversation véritable, sauf lors de la naissance de la petite Félicie. Mais là encore, cela s'était résumé à quelques échanges anodins. Si la mort d'Éloi était plus supportable à chaque jour qui passait, il n'en demeurait pas moins qu'à la vue de Madeleine, enceinte de 8 mois, Simone éprouvait toujours une émotion particulière. Pourquoi elle pouvait avoir un nouveau bébé alors qu'eux ne seraient plus jamais parents d'un garçon? Au moins, Arthur ne l'accompagnait pas, même si tout au fond de son cœur, Simone eut un léger regret, qu'elle fit taire aussitôt. Depuis sa tentative d'espionnage le jour de l'anniversaire du bébé, la femme sentait sa détermination fondre à vue d'œil. N'eût été la rage qui animait encore Tom à la mention du nom de sa sœur, Simone se disait qu'elle aurait peut-être perdu la bataille et tenté de renouer les liens. Bien sûr, le bébé de Madeleine la confrontait chaque fois à l'absence d'Éloi, mais il n'en demeurait pas moins que lorsqu'elle l'apercevait, Simone l'observait toujours à la dérobée pour imprimer son image dans son esprit. « Je vais te parler de Palmyre, » annonça Madeleine. « Je le sais, tu l'as dit 3 fois. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? » Madeleine posa ses yeux sur le corps de sa sœur, moins enrobée que le sien. Elle éprouva un certain regret par rapport à l'époque où elle pouvait confondre tous les villageois qui les rencontraient. Peu de gens arrivaient à différencier les jumelles, et cela les avait toujours amusées. Même au moment de la noyade de son neveu, seule sa grossesse permettait la distinction entre les deux. Simone lui avait même dit « J'ai hâte qu'il sorte ce bébé-là, pour qu'on se ressemble de nouveau. » Soupirant discrètement en comprenant qu'elles étaient loin de la réconciliation qu'elles souhaitaient, Madeleine pointa le banc de bois sur lequel trônait un gros panier rempli de vêtements à plier. « On peut s'asseoir? Vas-y, toi. Moi, je suis correct debout. » « Oh, Simone! » Sans pouvoir se retenir, Madeleine laissa échapper une plainte. Elle tendit la main devant elle pour que l'autre la saisisse. Mais malgré son envie passagère et son sentiment de culpabilité devant la détresse qu'elle pouvait lire sur la figure ronde de sa jumelle, Simone conserva son visage fermé, Madeleine se dirigea donc vers le banc et y posa son postérieur, sans même enlever son manteau ni son béret. Elle essuya discrètement ses yeux humides, puis releva les épaules pour trouver le courage d'aborder le sujet qui l'avait amenée jusqu'ici. « Palmyre et Rosario veulent se marier », annonça-t-elle sans plus attendre. Pour la première fois depuis longtemps, Simone laissa tomber son masque de glace, trop éberluée pour songer à cacher ses émotions. Elle éclata d'un rire bref. « Se marier? Voyons donc, c'est quoi cette idée-là? » « C'est pour éviter que Rosario soit obligé de suivre sa fille et sa famille à Gaspé. Le cousin de son gendre va bientôt emménager dans leur maison, d'ici Noël, si j'ai bien compris. » Estomaquée, Simone oublia la résolution de se tenir loin de Madeleine et elle s'affala sur le banc à côté d'elle. Sa sœur était tellement émue de se trouver aussi près de sa jumelle qu'elle cessa momentanément de respirer. Madeleine se disait que si elle le voulait, elle n'avait qu'à tendre la main et toucher le bras de son âme sœur. Elle leva un peu le nez et tira le cou pour tenter de sentir l'odeur de Simone. « Je veux bien croire que c'est plate », commenta celle-ci, qui ne réalisait pas les mois de sa sœur. « Mais quand même, se marier à plus de 80 ans, qu'est-ce que le monde va penser? » « Honnêtement, Simone, ça m'importe peu. C'est pas comme si on n'avait pas fait parler de nous dans la dernière année. » Simone garda le silence en fixant ses mains aux ongles cassés par le travail à la grave et au potager. Après la mort de son fils en juin 1934, les villageois avaient d'abord été majoritairement solidaires avec Tom et elle. Puis, plus les mois passaient, plus la jeune femme sentait que les gens avaient envie que le couple passe à autre chose. Simone savait que plusieurs personnes disaient qu'ils n'étaient pas les premiers à perdre un enfant, qu'il fallait en revenir, que la vie était faite de naissances et de décès. C'est certain que des noyés, il va toujours y en avoir ici, résonnaient des pêcheurs, las d'entendre parler de l'incident. On vit sur le bord de la mer, il faut pas se surprendre qu'elle nous arrache du monde. Elle peut pas juste servir à nous nourrir, c'est un échange, c'est de même que ça marche. Alors, pour ce qui était des ragots et des commérages, Madeleine avait raison. Outre la situation concernant les jumelles, il y avait eu la présence de Sylvestre Ballan au bras de Clémence le Noël précédent, l'arrivée de Jacqueline comme curé, mais quand même, l'idée de voir sa grand-mère entrer dans l'église pour se marier à l'âge de 82 ans lui paraissait assez ridicule. J'ai de la misère quand même à comprendre. En plus, ils vont vivre où? Chez nous. Simone garda un commentaire abrasif pour elle. Depuis 16 mois, elle se privait de voir Palmyre parce que cette dernière habitait avec Freddy et Madeleine. Si au moins le mariage des deux vieux avait signifié qu'ils s'installaient de manière autonome, elle aurait pu aller la visiter à sa guise. Elle savait que cette pensée était égoïste, puisque physiquement, Palmyre était de plus en plus diminuée et qu'elle ne pourrait vivre seule dans sa propre maison, même avec un homme à ses côtés. Se penchant pour délasser ses grosses bottes aux semelles couvertes de terre, Simone affirma « Dans le fond, ça me regarde pas. Grand-mère peut bien faire ce qu'elle veut. Bon, alors au revoir. » Simone se releva avec sa paire de chaussures à la main et Madeleine la grippa aussitôt. Les deux sœurs eurent le même réflexe, celui de fermer leurs yeux quand leur peau se toucha. Puis la première s'écarta en secouant la tête. « Fais pas ça, Maddy, je t'en prie. Touche-moi pas. Je voulais juste te demander de m'aider à convaincre Jacqueline. » »« Oh, lui, je l'avais oublié. » Les femmes échangèrent un regard entendu. Si leurs frères aimaient leur grand-mère autant que ses sœurs, il n'en demeurait pas moins qu'ils n'accepteraient pas facilement cette drôle de lubie de sa part. « Je passai à l'église tantôt pour lui en glisser un mot, » poursuivit Madeleine, « mais je m'attends à ce qu'il refuse d'entendre raison. » Alors, si tu pouvais faire la même chose quand tu le verras, je pense que grand-mère l'apprécierait vraiment. Tu sais comment elle vénère notre frère. Je peux bien faire ça pour elle, mais Jacqueline m'a jamais écouté. Toi non plus, d'ailleurs. Encore un nouvel échange de regards entendus. Encore une lueur d'espoir au fond du cœur de Madeleine. La complicité que sa sœur et elle avaient toujours eue pouvait-elle refleurir? Quand elles avaient 15 ans, Simone avait caché les bottes de leur aînée, revenue pour l'été, derrière le four à pain parce qu'il l'avait réprimandée devant les frères Poirier. Elle avait demandé à sa jumelle de vérifier que Jacqueline était dans sa chambre pendant qu'elle réalisait son méfait. Même si Madeleine n'aurait jamais osé faire un tel coup à leur frère, il n'était pas question qu'elle laisse Simone prendre le blâme seule lorsqu'il avait découvert ses chaussures 2 jours plus tard. « On en a pris chacune une pour la cacher », avait-elle marmonné à ses parents qui voulaient la vérité. Alors si le mariage de Palmyre et Rosario ouvrait la voie de la réconciliation, Madeleine serait la première à courir devant eux dans l'allée centrale de l'église de Lens-à-la-Joie. Comme Simone faisait mine d'ouvrir la porte donnant sur le couloir de sa maison, Madeleine se leva à regret. « Est-ce que tu penses que tu pourrais me dire comment se sera passée ta rencontre avec Jacqueline? » s'informa-t-elle d'un ton qu'elle trouva trop suppliant, mais qu'elle n'arrivait pas à tempérer. Simone garda le dos tourné pour éviter de faiblir et les yeux baissés sur la porte qui séparait la partie principale de la petite cuisine d'été, elle hocha lentement sa tête. « Merci », chuchota Madeleine en se retenant pour crier de joie. Depuis près de 10 minutes, Jacqueline et Rosalie se tenaient assis côte à côte sur le premier banc devant l'hôtel.
« Donc vous comprenez bien, mademoiselle Taillefer, que la réputation du père de ce prétendant risque de nuire à votre relation. » Vous ne voulez pas un fiancé qui va finir par devenir un ivrogne. »
Rosalie tourna son regard franc sur le curé.
Oh, mais pour l'instant, Émile a rien proposé. C'est juste que vous m'avez dit de garder mes yeux ouverts et comme il vient chaque semaine au magasin, bien, je me suis dit qu'il pourrait peut-être me faire un bon mari. Même si entre vous et moi, dit-elle naïvement, j'aime pas trop ça les hommes blonds.
En disant cela, Rosalie haussa coquettement les épaules, sans même réaliser la tension qui s'installa dans les larges mains que Jacqueline avait posées sur ses cuisses, pour éviter la tentation de toucher à la jolie femme. Blessée par le commentaire qu'il prit personnel, Jacqueline se releva et marcha jusqu'à une table installée près du mur. Il persifla.
« Voilà une remarque bien superficielle pour une femme de goût. Vous saurez, mademoiselle, que la couleur des cheveux d'un homme n'indique en rien sa capacité à prendre soin de sa famille. »
Confuse, la pauvre Rosalie rejoignit le curé en mordant sa lèvre inférieure. Elle s'enfonça encore plus en constatant que Jacqueline Gérard portait une main à ses cheveux blonds foncés.
« Oh, mais vous, c'est pas pareil, monsieur le curé. Je peux pas vous trouver beau. Vous êtes déjà marié avec le Seigneur. »
De plus en plus confus, Jacqueline observait avec concupiscence les lèvres un peu humides de la jeune femme en se retenant pour répliquer
« Mais moi, je vous trouve belle, Rosalie. »
Plutôt, il tapota maladroitement l'épaule cachée par le manteau de laine brun et revint sur le sujet de leur discussion.
« Si Émile Pelletier vous demandait d'accrocher son fanal chez vous, il vous faudrait vous assurer que la boisson ne fait pas partie de ses habitudes. »
« C'est bien certain, monsieur le curé. Mais à part lui, je vois pas qui pourrait m'épouser. Il y a bien Grégoire Filion, le maître de Grave, mais il repart à Bonaventure à la fin de chaque saison et moi, j'ai pas le goût de quitter ma famille. »
Une moue chagrine sur son joli visage empêcha Jacqueline de réagir. Sans même s'en rendre compte, il posa une main sur la joue de Rosalie et chuchota, la voix enrouée par la convoitise,
« On va voir ce qu'on peut faire, mademoiselle. »
Rosalie fit un sourire incertain, gênée par la main qui s'éternisait sur son cou. Elle croisa les bras sur le devant de son manteau boutonné en se demandant si elle pouvait reculer sans offusquer l'homme d'église. Comme il constatait son malaise, Jacqueline laissa tomber à regret son bras le long de sa soutane. La marchande serra fortement son béret dans sa main et s'engagea dans l'allée de côté pour ressortir de l'église. La situation la rendait mal à l'aise et, de toute manière, le curé lui avait confirmé qu'elle pouvait envisager une relation avec Émile. Voulant le remercier, elle lui tendit la main.
« Merci, monsieur le curé. Je suis bien contente de vous avoir parlé. Ça fait que si jamais Émile s'intéresse un peu à moi, je pense que je vais accepter de le recevoir à veiller. » En étant bien prudente, évidemment.
Pour Jacqueline, juste l'idée que les deux jeunes se côtoient, même avec un chaperon, lui donna des sueurs froides. Dans son dos,
il sentait les gouttes couler entre ses omoplates. Et sans savoir ce qui lui prenait, il s'avança et serra Rosalie puissamment contre sa poitrine pour l'embrasser de force sur la bouche. Il força le passage entre ses lèvres pour y glisser goulûment sa langue. D'une main baladeuse, il empoigna la fesse de la jeune femme pour l'attirer encore plus près de lui. Figée par la terreur, Rosalie haleta lorsqu'il descendit son visage contre ses seins avant de pousser un gémissement rauque. Le curé introduisit sa large main dans le col de la robe pour toucher le corps tendu et malaxa sans pudeur les formes voluptueuses. Quand l'homme souleva le bas de la jupe pour toucher le sexe de Rosalie, celle-ci poussa un cri avant de s'enfuir en courant. Lorsque Madeleine arriva en haut de la côte du Sureau, elle fut surprise de voir Rosalie Taillefer sortir de l'église en vitesse, le visage complètement ravagé. La jeune passa à quelques pieds devant elle et ne répondit pas à son salut. « Tant pis », souffla la femme, habituée depuis la mort des lois, à ce que certains villageois évitent de s'attarder près d'elle. La tête tournée vers la mer assez calme, après quelques jours de pluie, Madeleine caressa son ventre en souriant devant les petits coups que son bébé donnait. Son épaisse veste de laine grise était tendue sur son corps et elle se demandait bien comment elle ferait pour entrer dans son manteau d'hiver quand le mercure chuterait encore plus. Elle observa Rosalie qui s'éloignait à toutes jambes pour rejoindre le chemin principal et, curieuse, la femme décida d'aller voir si Jacqueline était dans l'église. « Je vais faire d'une pierre deux coups », pensa-t-elle, lui demander ce qui arrive avec Rosalie et lui parler de Palmyre et Rosario, si j'en ai le courage. En poussant la porte de l'édifice sacré, Madeleine prit quelques secondes pour saluer son Dieu. Elle ferma les yeux et fit une génuflexion, en souhaitant de toutes ses forces que le rapprochement se poursuive entre Simone et elle. En se relevant, elle aperçut son frère, la tête penchée sur l'autel à l'avant de l'église. Souriante, elle s'avança dans l'allée centrale et demanda « Allô, Jacqueline, tu vas bien? » « Dis donc, » poursuivit Madeleine sans attendre la réponse, « qu'est-ce qui se passe avec la jeune Taillefer? Je l'ai vue sortir d'ici en larmes. » Le curé leva un regard plutôt hagard vers sa sœur et souffla « Hein? Rosalie Taillefer, pourquoi elle pleurait de même? » L'homme se redressa et grommela que ce n'était pas de ses affaires, que la curiosité était un vilain défaut et qu'il ne commencerait pas à commérer sur ses concitoyens. Tout ça en étant plus blême que jamais. Madeleine s'empêcha de le questionner davantage, même si elle s'inquiétait de son allure. « Peut-être qu'il est malade, hein? » songea-t-elle avec un sombre pressentiment. Puis, secouant sa tête brune, la femme annonça la nouvelle pour laquelle elle venait le voir avant de perdre son aplomb. « Je voulais t'aviser que grand-mère et Rosario ont décidé de se marier, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Madeleine s'attendait tellement à une autre réaction de la part de Jacqueline qu'elle resta les bras pendants et la bouche entrouverte lorsque le curé répondit seulement « Se marier? Ah bon, j'imagine que c'est faisable. » « Jacqueline, t'es certain que ça va? Oui, oui. Pourquoi donc? » L'homme évita le regard de sa sœur. Il n'avait pas eu le temps de se remettre de ses émotions lorsque Madeleine avait pénétré dans l'église. Durant un moment, lorsqu'il avait entendu la lourde porte s'ouvrir, son cœur avait fait un saut dans sa poitrine. Il s'était retourné convaincu que Rosalie revenait pour qu'il puisse lui expliquer qu'il avait erré. Mais en voyant sa sœur, sa gorge s'était nouée. Un peu plus, et Madeleine surprenait le curé en train d'embrasser la jeune marchande. Dans un grand numéro d'acteur, Jacqueline fit un large sourire à sa sœur et l'enlaça gentiment. « Tout va bien, chère Maddy. Un peu fatiguée, peut-être. » Il la dirigea lentement vers les doubles portes, dans l'idée de ressortir de l'église pour retourner chez lui panser ses plaies. En saluant sa cadette sur le parvis, Jacqueline se dit qu'il devrait trouver un mensonge crédible, au cas où Rosalie informerait quelqu'un des gestes indécents qu'il avait posés à son endroit. « Bon, bien alors, je reviendrai te confirmer la date, mais ça devrait être le 23 novembre », clama Madeleine, très heureuse de cette réaction inattendue. Puis la femme s'engagea avec bonheur sur le rang Soriol. Il lui tardait d'annoncer la bonne nouvelle à Palmyre. Moins d'une dizaine de minutes plus tard, Madeleine grimpa prestement les marches pour entrer dans sa cuisine d'été. Elle enleva sa veste et ses bottes en vitesse et remercia Lucienne qui discutait avec l'aïeule, assise à ses côtés sur le divan. « T'es allée au magasin? » tenta de nouveau la curieuse Lucienne. « Non, Arthur vous a pas causé de trouble? » « Pas du tout. Il dort encore, ton petit ange. Je te dis que t'es chanceuse d'avoir un bébé de ce genre-là. Le petit Auguste de Géraldine n'a pas fait de sieste depuis sa naissance, en tout cas. C'est ça qu'elle a dit l'autre matin au magasin. Elle se plaignait de lui en faisant par contre les louanges de Félicie. À l'entendre, ces cinq gars sont des monstres et il y a juste sa petite dernière qui mérite le paradis. » Lucienne laissa passer quelques secondes sans parler en espérant une réaction. Puis elle se dirigea vers la porte de côté pour enfiler ses vieilles chaussures. Elle ne résista pas à l'envie de commérer un peu. En parlant de Géraldine, chuchota la femme en mettant la main sur la poignée, « Est-ce qu'il y a juste moi qui remarque à quel point ses enfants sont mal à manger? Ses petits sont tout crottés et je te parle pas de leur linge déchiré. On dirait qu'elle sait plus comment prendre soin de ses enfants-là. Je comprends qu'un mère est pas vaillant, mais c'est pas une raison pour négliger sa famille de même. Hein? » Sans renchérir, Madeleine haussa un sourcil. Elle n'avait pas du tout l'intention de médire sur Géraldine Veillette. Dans un village comme Lens-à-la-Joie, les persiflages finissaient toujours par se rendre aux oreilles des gens concernés. S'il y avait quelque chose que la noyade des lois lui avait appris, c'est que plus jamais elle ne parlerait d'un villageois à quelqu'un d'autre que les membres de sa famille proche. Les premiers mois après le drame, tous faisaient un honneur de l'aviser chaque fois qu'une médisance la concernait. Plutôt que de se sentir redevable aux femmes, surtout, qui la prévenaient qu'une telle avait avancé ceci et qu'une autre avait déclaré cela, Madeleine avait eu encore plus envie de se terrer dans un trou pour hurler. C'est donc un peu dépitée que Lucienne retourna chez elle. « Pas trop jasante, la maladie, » murmura-t-elle entre-temps pour traverser le chemin de terre. Dès que sa voisine quitta la maison, Madeleine annonça la bonne nouvelle à sa grand-mère. « Vous allez être heureuse, grand-mémère. » « Jacqueline est d'accord. » « Oh, mon doux seigneur, pour vrai, il n'a pas trouvé l'idée ridicule. » Madeleine secoua ses courtes boucles. « Pas du tout. Quand je lui ai parlé du 23 novembre, il a simplement hoché la tête, puis il a tout de suite accepté. » Palmyre se leva et avança à petits pas vers Madeleine, les mains croisées sur le devant de sa blouse blanche. « Alors pensez à votre robe, grand-mémère, parce que le grand jour est pas si loin. » Madeleine se hâta vers la chambre où son bébé venait de se réveiller. Pendant qu'elle le changeait, sa grand-mère leva les yeux vers le ciel pour prier un peu. Quand sa petite fille redescendit avec son fils dans les bras, Palmyre joignit ses doigts sous son menton et rit de manière enfantine. L'œil pétillant, elle murmura « Je peux pas imaginer ce que les villageois vont penser d'une telle affaire. L'important, grand-mémère, c'est que vous soyez heureuse. » « Ben, sais-tu quoi, ma fille? Je le suis. J'aurais jamais pensé remplacer Arthur dans mon lit, mais je suis certaine que Rosario va m'aider à finir ma vie en beauté. » Palmyre plongea ses yeux pâles sur le gros ventre de Madeleine et la remercia en se dirigeant vers sa chambre. « Qu'est-ce que vous faites, grand-mémère? » s'informa la femme en tapant affectueusement la main d'Arthur qui essayait d'accrocher la barrette dans ses cheveux. « Tu me l'as dit, ma fille. » « Je vais aller voir si j'ai une belle robe pour me marier dans le fond du garde-robe, sinon je vais me coudre quelque chose qui aura de l'allure. Il faut pas que je tarde, c'est quand même dans moins de 2 mois, et je suis plus aussi rapide sur la pédale. »